bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une rencontre historique au sein de l'Église. Pour la première fois, des évêques vont recevoir des fils et des filles de prêtres. Le début d'une reconnaissance après des siècles de mépris, à suivre le témoignage de ces enfants du silence. Retour sur l'acte 2 du quinquennat. Hier à l'Assemblée, le Premier ministre verdit son cap. Dans ce journal, zoom sur l'une des mesures annoncées, la consigne pour certains emballages plastiques. Dans l'actualité également, l'hommage d'Emmanuel Macron aujourd'hui aux sauveteurs en mer, la victoire des Bleus dans la douleur hier soir, 2-0 face à la Norvège. Et puis on parlera dans ce journal d'une avocate iranienne emprisonnée l'an dernier pour son combat contre le port du voile obligatoire, et d'une avocate française qui, elle, se bat pour le droit à l'avortement dans les années 70, l'histoire de Gisèle Halimi montée sur scène à la Comédie Française.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, la présidente de la région Île-de-France, ex Les Républicains, Valérie Pécresse.
France Inter.
On les appelait parfois, Sébastien, les enfants du diable, des enfants de prêtres qui témoignent ce matin sur notre antenne.
C'est l'histoire de dizaines d'hommes et de femmes, fruits d'un amour interdit, longtemps rejeté par l'institution, et qui aujourd'hui demandent à ce qu'on lève le secret. Pour la première fois, l'Église de France fait un pas en leur direction. Rencontre officielle aujourd'hui entre trois enfants de prêtres et des évêques dans les locaux de la Conférence des évêques de France. C'est peut-être le début de la levée d'un tabou après des siècles de silence et de souffrance. Julie Pietri.
Léa utilise encore aujourd'hui à 40 ans un pseudonyme pour raconter son histoire. Son numéro de téléphone est sur liste rouge. Et non, il n'est pas possible de la prendre en photo. Seulement si vous le souhaitez, dit-elle, mon poignet sur lequel est accrochée la montre de mon père. Prêtre durant 20 ans, il décide de quitter les ordres quand il tombe amoureux.
Quand vous sortez des ordres, en fait, vous avez rien. Il a pris un nouveau poste de prof dans un lycée catholique. Et donc les parents d'élèves ont découvert que mon père était un ancien prêtre. Nous, on est une école catholique, on ne veut pas d'un curé défroqué, etc. On avait des lettres anonymes de menaces, des colis avec des excréments. J'étais dans un landau, ma mère m'a quitté 2 secondes pour faire un truc. Elle est revenue, il y avait un sac poubelle sur mes genoux. Et on a eu aussi un début d'incendie criminel dans la maison.
Le rejet, Nathalie, 50 ans, l'a vécu également. Après une enfance plutôt paisible, elle prend en plein visage les réflexions des hommes catholiques fervents qu'elle rencontre.
Vous entendez des réflexions du genre « mais toi, je ne peux pas t'épouser parce que tu es fille du curé ». Personne n'est responsable de ce qu'ont fait ses parents, en fait, voyez.
Le rendez-vous d'aujourd'hui est un espoir pour les 60 personnes qui ont adhéré à l'association Les Enfants du Silence. Anne Oxford, sa vice-présidente, demandera à l'Église reconnaissance et accompagnement.
Bien sûr, elle va inciter le prêtre à s'occuper de son enfant, mais il ne faut surtout pas dire qu'il a été prêtre. On l'envoie dans un autre diocèse. Voilà, il ne faut pas dire. Comment ces hommes et ces femmes peuvent être accompagnés et pas virés, comme s'ils étaient des parias? Forcément, les enfants, ils peuvent même pas exister là-dedans.
La Conférence des évêques de France se dit prête aujourd'hui à admettre les erreurs du passé et à aider financièrement les prêtres et religieuses concernés.
Je lis Pietri, une rencontre historique à suivre dans nos prochaines éditions. On entendra la parole de l'Église dans le journal de 13h, un dossier aussi à retrouver sur franceinter.fr.
Le chef du gouvernement, Sébastien, il est 7h33, promet une accélération écologique. Qu'en est-il dans les faits?
Grosse déception ce matin du côté des défenseurs de la planète. Le discours de politique générale d'Édouard Philippe n'a pas convaincu les ONG. Sur le fond, malgré tout, quelques annonces côté énergie, développement de l'éolien en mer, les aides à la rénovation énergétique seront recentrées sur les ménages les plus modestes et tous les produits en plastique jetable seront bannis de l'administration à partir de 2020. Sur le gaspillage également, le Premier ministre a annoncé la mise en place prochaine d'une consigne sur certains emballages, a priori surtout ciblée sur les bouteilles plastiques, mais la mesure, Sandy Dauphin, est loin de faire l'unanimité.
En France, 6 bouteilles en plastique usagées sur 10 sont collectées. Les recycleurs misent donc sur la consigne pour en récupérer davantage. Mais certains élus locaux s'inquiètent. La consigne va-t-elle concurrencer la collecte des bacs jaunes? Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce, association créée par des collectivités locales.
Les collectivités locales sont toutes en train d'investir dans des grands centres de tri. Or, la bouteille, c'est la moitié du gisement. Si demain la consigne se met en place, il n'y a plus de bouteilles à trier. S'il n'y a plus de bouteilles à trier, il faut revoir totalement les investissements, les dimensionnements des centres de tri, mais aussi des bacs qui vont être trop grands, etc., etc.
Les collectivités locales craignent aussi un manque à gagner si la consigne ne devait concerner que les bouteilles en plastique, car c'est l'un des rares déchets plastiques qui a une valeur marchande aujourd'hui.
On le sait tous, la bouteille de plastique, elle vaut aujourd'hui 250 euros la tonne. Hein. On ne peut pas juste dire, je vais faire de la consigne sur les bouteilles. La recette va au marché, et puis le coût, bah, lui, il va au service public, aux impôts locaux, on vous laisse, les pots de yaourt, enfin tout ce qui vaut rien aujourd'hui dans la poubelle.
Et cette association qui représente des collectivités locales appelle ses adhérents à geler leurs investissements dans des centres de tri avant d'en savoir plus sur ce projet de système de consigne.
Sandy Dauphin, les oppositions s'apprêtent à enfourcher un nouveau cheval de bataille aujourd'hui contre la privatisation des aéroports de Paris. Nouvelle étape depuis cette nuit, minuit, avec l'ouverture attendue du site internet permettant de recueillir les signatures des citoyens opposés à cette privatisation d'ADP. Il faut rassembler 10% du corps électoral pour déclencher la prochaine étape, éventuelle d'un référendum d'initiative populaire. La gauche comme la droite veulent y croire et commencent à faire campagne. Laurence Perron.
9 mois pour recueillir 4,7 millions de signatures. Olivier Faure, le patron du PS, a déjà le kit de campagne et son argumentaire.
On commence par Aéroport de Paris, ça se prolonge par la privatisation de la Française des Jeux, ça ira plus loin demain avec la privatisation des barrages hydroélectriques. Ce sont les services publics qui sont menacés par ce gouvernement.
La France Insoumise ne mégote pas son soutien. S'il faut des meetings communs, il y aura des meetings communs. Alexis Corbière.
C'est un peu comme une campagne électorale, mais pour une fois, on ne vote pas sur des personnes. Là, c'est sur une certaine conception de la souveraineté déjà. Pour ce qui est des aéroports, il y a un enjeu stratégique aussi. Ce sont des frontières, ce n'est pas des lieux, me semble-t-il, qui doivent passer sous l'autorité de groupes privés.
Les communistes vont mettre leurs militants en action. C'est plus compliqué pour ceux qui, à droite, ont donné leur signature. Le parti LR est divisé. Qu'importe pour le député du Lot, Aurélien Pradier.
Je me fous de savoir si au bas de ma signature, il y a aussi la signature des socialistes, des communistes et des insoumis. Je pense qu'on n'est pas très loin d'une idée gaulliste qui consiste à dire que lorsqu'il y a à trancher sur un sujet stratégique pour le pays, on s'en remet au peuple français. Moi, j'ai pas peur de la démocratie et j'ai pas peur du peuple.
Les coalisés du RIP savent toutefois que le gouvernement ne va pas leur offrir des outils de campagne sur mesure. Il a d'ailleurs fallu l'intervention du Premier ministre pour que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, accepte de les recevoir aujourd'hui.
Les suites du référendum d'initiative partagée avec Laurence Perron. Le très controversé projet de loi Blanquer, lui, pourrait bientôt connaître son épilogue après l'Assemblée, puis le Sénat. Le texte dit pour une école de la confiance sera examiné aujourd'hui par une commission mixte paritaire afin de tenter d'adopter une version finale. Une certitude, les regroupements écoles-collèges ne referont pas leur apparition dans le texte. Le principal syndicat du primaire, le SNUIPP, appelle malgré tout à une journée de grève et de mobilisation aujourd'hui. La sœur du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, convoquée devant la justice française, ce sera le 9 juillet prochain. Assa Bin Salman est accusée d'avoir fait frapper un artisan par son garde du corps, un plombier venu travailler dans son appartement avenue Foch, roué de coups pour avoir pris des photos. Le procès devrait avoir lieu en son absence.
Il est 7h38, elle avait défendu les iraniennes qui refusaient de porter le voile.
L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh est détenue à Téhéran depuis maintenant un an que cette militante, prix Sakharov en 2012, est accusée notamment d'espionnage ou d'incitation à la débauche, condamnée à 33 ans de prison et à 148 coups de fouet. À l'occasion de sa première année de détention, Amnesty International remettra aujourd'hui une pétition pour exiger sa libération à plusieurs ambassades iraniennes à travers le monde et notamment à Paris. Valérie Crova.
Pour comprendre qui est Nasrin Sotoudeh, il faut l'écouter parler. C'était en mars 2018, deux mois avant son arrestation, dans son bureau à Téhéran.
Je vous dis que celui qui a pu imposer aux femmes un mètre de tissu est capable de tout contre les femmes. C'est une question qui concerne les femmes et c'est aux femmes d'en décider et pas aux hommes.
Nasrin Sotoudeh représentait trois jeunes iraniennes qui avaient bravé l'interdiction d'enlever leur voile en public dans les rues de Téhéran. Ces paroles ont fait d'elle la porte-voix de ce mouvement qui a été rapidement réprimé par le régime des Mollahs. Cécile Coudriou est la présidente d'Amnesty International France.
Il y a véritablement un durcissement du régime iranien et une volonté de faire taire toute dissidence qui est devenue intolérable pour ce gouvernement.
Pour avoir défendu des opposants à l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, Nasrin Sotoudeh a déjà passé 3 ans dans cette même prison d'Evin où elle est incarcérée. Quand ses geôliers lui ont demandé de porter le voile dans l'enceinte de la prison, elle a refusé. Pour la punir, on lui a interdit de voir ses deux enfants, mais Nasrin Sotoudeh a tenu bon et n'a pas plié fidèle à ses principes.
Une avocate qui se battait donc l'an dernier en Iran contre le port du voile. Et en France, il y a près de 50 ans, c'est une autre avocate qui se battait, elle, pour le droit à l'IVG. C'était en 1972. Gisèle Halimi défendait alors une jeune fille qui avait eu recours à l'avortement lors du procès dit de Bobigny, l'une des grandes pages de l'histoire des femmes. Le procès de Bobigny, dernier acte avant la loi Simone Veil, un procès historique reconstitué aujourd'hui au théâtre par les acteurs de la Comédie française. Stéphane Capron.
Le procès a connu un retentissement médiatique phénoménal en 72. La jeune Marie-Claire et sa mère ont été soutenues par les grandes intellectuelles de l'époque, dont Simone de Beauvoir et la comédienne Delphine Seyrig, interprétée dans le spectacle par Coralie Zaonero.
C'est à la fois le courage de ces femmes très simples qui ont été d'accord pour suivre la tactique de Gisèle Halimi, qui était de ne pas plaider coupable et de relever la tête et de dire non, en fait on assume, on est hors la loi. Et c'est grâce aussi donc à ces femmes connues comme Delphine Seyrig, mais aussi comme Michel Rocard, des hommes politiques qui sont venus. Tout le monde s'est uni. Et c'est là qu'on se dit, en effet, c'est l'union qui peut faire la force dans des cas comme celui-là.
Au cœur du procès, il y a la personnalité de Gisèle Halimi, incarnée avec une force incroyable par Françoise Gillard.
Ce qui m'a impressionnée chez cette femme, c'était cette détermination dans la grande douceur. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez aimé le plus défendre dans tout ce que vous avez abordé, que ce soit le Congo, le Vietnam, l'Algérie? Elle m'a dit, les femmes. Elle me transmettait d'une certaine manière, faites passer mon combat.
La pièce de Pauline Bureau est un véritable choc théâtral, un hommage émouvant à la liberté des femmes, au moment où un peu partout dans le monde, des voix s'élèvent pour remettre en cause le droit à l'avortement.
Hors la loi, au vieux colombier, c'est à Paris jusqu'au 7 juillet.
Merci Sébastien Legénie.